Good morning, guten Tag, bonjour, bienvenue sur Melting Talk. Aujourd'hui, jeudi 11 mai, je vous propose une interview que j'ai réalisée il y a quelques semaines déjà avec le sénateur des Bouches-du-Rhône, Robert Brett, que j'ai questionné sur la loi DAFSI qui est en ce moment même à l'étude au Sénat. C'est le député Frédéric Dutoit que j'avais précédemment rencontré à Marseille lors de l'étude de la loi DAFSI à l'Assemblée nationale qui m'a conseillé de le rencontrer. Mais si fort heureusement Frédéric Dutoit était responsable au sein de la commission affaires culturelles de l'élaboration de la loi DAFSI, ce n'était pas le cas de Robert Brett qui au sein du Sénat était responsable d'autres commissions. Donc il était un peu en difficulté pour répondre sur le texte, mais j'ai trouvé tout de même intéressant de discuter avec un sénateur du fonctionnement ou dysfonctionnement du Sénat, des institutions françaises, des conditions d'élaboration des lois. Donc j'ai choisi de vous présenter ce podcast en deux parties. Une première partie qui concerne plus particulièrement le podcasting et la loi DAFSI et qui est en fait plutôt un message d'information à l'adresse des sénateurs. Et une deuxième partie où Robert Brett nous expliquera comment fonctionne le Sénat, comment il est élu, pourquoi reste-t-il majoritairement à droite malgré les alternances droite-gauche en France, comment élabore-t-on les lois, comment se débrouille-t-on pour qu'elles soient applicables mais malgré tout pourquoi elles sont si souvent inapplicables, et quelle était l'ambiance pendant le climat social tendu autour du CPE et les allers-retours de la loi sur l'égalité des chances entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Que pourrait-on faire pour améliorer cette situation dans le futur, d'après Robert Brett? J'espère que vous aimerez son intervention. Je vous retrouve tout à l'heure. Aujourd'hui, mardi 18 avril, je suis donc en mairie du 13e-14e à Marseille, avec M. Robert Brett, qui est sénateur des Bouches-du-Rhône. Bonjour M. Brett.
Bonjour madame.
Donc, je viens vous voir pour vous parler de la loi DAFSI, puisque maintenant, c'est un peu tous les gens qui sont concernés comme moi, podcasteurs, blogueurs, qui en ont beaucoup parlé, que cette loi va passer au Sénat, après avoir été votée avec un peu de difficulté, mais votée à l'Assemblée nationale. Donc, je pense que vous avez dû suivre déjà vous-même les débats, ou est-ce que vous êtes amené à travailler sur cette commission déjà peut-être?
Non, contrairement à mon ami Frédéric Dutoit qui était chargé par son groupe à l'Assemblée nationale de suivre le texte, au Sénat, ça sera Jacques Ralit, Yvan Renard et Annie David qui sont à la commission des affaires culturelles, qui préparent, qui travaillent déjà sur le texte et qui seront chargés de donner notre opposition, défendre nos amendements en séance. Donc moi, je peux venir ou en complément, je peux déposer des amendements personnels ou suggérer des amendements à mon groupe. Donc je peux venir compléter le travail fait par nos trois représentants dans la commission des affaires culturelles.
Et donc vous êtes représentant dans quelle commission?
Moi, je suis à la commission des affaires européennes, délégation des affaires européennes. Et des affaires étrangères et armée-défense.
D'accord. Et est-ce que vous avez des fois des positions qui puissent être communes au niveau du département des Bouches-du-Rhône? Parce que j'ai vu que vous étiez...
On est sept sénateurs dans les Bouches-du-Rhône, oui. Communes aux six autres sénateurs, c'est quand même assez rare. C'est arrivé sur un travail sur le négationnisme... sur les crimes de type génocide, où avec Florence, mon assistante, on a fait un travail qu'on a proposé et donné aux autres parlementaires s'ils voulaient en faire leur proposition de loi à déposer dans leur groupe politique respectif. Mais sinon, c'est assez rare. Il faut vraiment que le thème soit consensuel pour arriver à présenter une proposition identique qui irait de l'UMP en passant par le Parti socialiste jusqu'au Parti communiste.
Parce que donc vous êtes sénateur du Parti communiste.
Je suis sénateur, membre du Parti communiste, oui.
Non, mais je vous posais toutes ces questions parce qu'il me semble avoir compris que les derniers débats donc, concernant la loi DAFSI étaient très défavorables pour que maintenant, peut-être au Sénat, on imagine qu'il y a un revirement de situation. Ou comment vous voyez les choses?
Je pense peut-être que le débat va au contraire rebondir au niveau du Sénat, pas automatiquement du point de chute du débat à l'Assemblée nationale, mais peut-être va rebondir à la fois avec le recul... depuis que le texte a été adopté à l'Assemblée nationale, et avec les particularités du Sénat. C'est-à-dire qu'en général, le Sénat est une chambre qui est moins sous, comment dire, moins amenée à polémiquer et à être sous l'actualité, et qui parfois peut amener ou plus de sagesse, ou parfois sur un certain nombre de sujets, peut-être comme ce texte de loi, avoir une position peut-être un peu plus archaïque, voire réactionnaire, sur quelque chose qu'il connaît mal et qui peut, dont il pourra peut-être se méfier. Mais ça, je ne sais pas. Je vous dis ça. Nous avons eu simplement le travail de nos trois collègues de la Commission des affaires culturelles qui ont participé à pas mal d'auditions organisées par la Commission des affaires culturelles du Sénat. Ils ont fait aussi pas mal de travail de leur côté, auditionnant du monde. Je sais qu'il y a eu des réunions communes avec nos camarades de l'Assemblée nationale et puis avec, ça se fait aussi en cohérence, avec ceux qui, dans la direction de notre parti, réfléchissent ou travaillent sur ces questions-là. Donc il y a une réflexion aujourd'hui où, à mon avis, ça ne sera pas simplement la reprise du texte avec un copier-coller, mais il peut y avoir ou une amélioration, voire peut-être de votre côté, ce que vous apprécierez comme des reculs par rapport au débat à l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'il va y avoir un nouveau débat, et moi je vous invite à vous rapprocher, si vous êtes organisé, structuré au plan national, pour vérifier si ceux qui, au plan national, sont censés discuter avec les sénateurs, ont bien eu la discussion, que ce soit la commission des affaires culturelles, le rapporteur notamment, ou les différents groupes qui ont rencontré beaucoup de monde. Et si ce n'était pas le cas, si ce contact n'a pas eu lieu, moi je peux très bien à ce moment-là faire le lien de manière que le contact ait lieu et que votre réflexion, votre expérience puisse nous être utile.
Oui, c'est-à-dire que nous, on a une position un peu particulière à la limite de la loi avec le podcasting, qui est une nouvelle technologie. Vous voyez, là, je suis en train d'enregistrer avec un mini-disque. Par la suite, je vais mettre ce fichier audio en MP3 sur un site Internet. Et ça va donner une petite émission radio où il pourrait y avoir que des interviews, par exemple. Mais moi, par goût personnel, j'ai mis de la musique, puisque le premier site de podcasting que j'ai créé sur Internet, Melting Pod, c'est un site de musique que je voulais démarrer sur Marseille, avec la promotion de groupe marseillais, que je trouve justement qui ne passe pas assez souvent sur les ondes. Donc pour eux, c'était une possibilité d'être diffusé. Pour moi, c'était une sorte de challenge personnel pour dire, bon, ben, j'aurais pas passé toute ma vie à râler après la radio en faisant ma propre radio. Bon, c'est comme on dit, hein. Don't hate the media, be the media. Donc, à partir du moment où on prend la parole, on peut au moins se satisfaire personnellement. Je satisfais beaucoup de gens puisque c'est en anglais et donc c'est diffusé dans le monde entier. Il y a beaucoup de gens maintenant dans le monde qui connaissent les groupes de Marseille. Donc c'était vraiment une expérience intéressante qui se retrouverait peut-être contrariée par cette loi, puisqu'on est mis dans le grand sac général du téléchargement, puisque nous justement on met bien...
Il manque de discernement.
Voilà.
Moins.
Nous on met des fichiers MP3 en téléchargement libre sur Internet. On est la plupart tous bénévoles, donc il est impossible pour nous de payer quoi que ce soit. Moi j'ai mis des musiciens en ligne avec leur accord, souvent avec l'accord du label quand j'ai pu l'avoir. Donc je vole personne, je contrarie personne dans ses choix personnels, comme on a entendu des artistes très connus qui sont partis au créneau pour dire qu'on les volait. Bon, moi les gens que je diffuse m'ont donné leur accord. Parce qu'on parle des droits d'auteur, ce qui est vraiment insupportable. Les auteurs en France sont protégés de toute façon, une fois qu'ils ont créé, même s'ils n'ont pas déposé la SACEM, leur droit d'auteur est préservé. C'est une autre caractéristique. Ceux qui par habitude jusqu'à présent déposaient la SACEM n'avait pas encore bien réalisé que en cédant les droits à la SACEM, ils cèdent la gestion de leur musique. C'est-à-dire que moi, tous les gens qui jusqu'à présent m'ont donné le droit de passer la musique sur Internet, ils n'avaient pas le droit s'ils avaient déposé leur morceau à la SACEM. Donc ça veut dire qu'ils se dépossèdent de leurs droits en les donnant à gérer à la SACEM. Et de deux, C'est en échange, normalement, que la SACEM s'assure que leurs morceaux ne soient pas diffusés pour des raisons commerciales sans offrir une rémunération à ces auteurs. Mais quand ces auteurs ne sont pas assez diffusés, ils sont en dessous d'un seuil où on ne leur donne pas d'argent. Donc en fait, la plupart des musiciens n'ont jamais pris le temps, parce que c'est vraiment par habitude, moi quand je les ai questionnés, c'est comme ça, ils déposent à la SACEM, après ils n'ont pas d'argent, et en fait ils n'ont plus de droits. Donc moi je me disais que ce système fonctionne pour des... Alors on sait tout le temps de Johnny, mais enfin, il n'y a pas que lui en France, mais il y a beaucoup d'artistes connus qui sont bien rémunérés par la SACEM, que ces gens-là disent « nous on ne veut pas être diffusés sur Internet ». Je me dis qu'après tout, c'est leur propriété intellectuelle, ils ont le droit de le dire, mais que la catégorie de musiciens qui ne sont pas diffusés suffisamment pour obtenir droit à rémunération par la SACEM, qu'on leur donne la liberté de diffuser gratuitement sur Internet aux diffuseurs de leur choix ou à un diffuseur général ou à une plateforme, comme il avait été question à une époque par M. Dutoit qui avait déposé un amendement là-dessus, une plateforme publique ou privée. Aux États-Unis, il y a des plateformes privées de téléchargement gratuit pour des podcasts qui existent. Les auteurs ont le droit de donner le droit aux États-Unis. Et moi, je me dis, on va être en France, dans le pays des droits de l'homme, avec un système davantage répressif. Je ne sais pas, il me semble qu'il y a un non-sens. Si je me suis accrochée sur ce texte, c'est que je le trouve complètement injuste, illogique. Et bon, quand on rentre dans les histoires de loi, il est inapplicable. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on ait déjà impliqué des députés dans cette danse et que la deuxième étape, ça soit les sénateurs qui ont une certaine image de marque au niveau de la loi, que les gens votent d'un seul homme un texte pareil.
Non, ils ne voteront pas comme un seul homme, mais il y a besoin, par expérience, qu'il y ait un débat et de ce débat, une meilleure appropriation, parce que c'est le type de texte qui apparaît tellement technique et compliqué, plus l'organisation que j'évoquais, où chacun est dans ses commissions et suit les propres textes de loi et n'a pas le temps de s'occuper des textes de la commission voisine. Donc on est sur, il faut le dire, un enjeu de société à travers Internet. Et ça ne peut pas être simplement l'affaire de quelques initiés ou de quelques-uns. Au moins, si le débat à l'Assemblée nationale a été positif et a permis une chose, c'est justement de faire sortir le débat de l'hémicycle pour en faire un débat public, même si ce n'est pas un débat de café de commerce, mais c'est devenu quand même un débat. Et ça a permis un débat qui n'était pas gauche-droite, mais qui était transversal, où les députés, à tort ou à raison, ont essayé de réfléchir et d'amener des réponses sur ce texte-là.
Parce que j'interromps aussi, mais je veux dire que moi, il va se trouver que ça fera deux fois que j'interroge un député communiste et un sénateur communiste, mais il me semble que mon discours, je pourrais exactement le tenir avec un député de droite. Oui. Il n'a aucune couleur politique. Je trouve que c'est un discours d'un citoyen.
Puisqu'on n'est pas à examiner les contenus de ce qui passe dans les tuyaux, donc normalement, il n'y a pas d'enjeu idéologique, si ce n'est des enjeux financiers. Parce que je pense que sur ce texte-là, tel qu'il avait été fait au départ et tel qu'il est encore élaboré aujourd'hui, à mon avis, il y a plus de raisons d'être pour préserver ou donner des garanties même aux majors que de s'occuper d'une petite délinquance ou de se soucier du contenu qui passe ou qui passera demain dans ces tuyaux. Mais en tout cas, sur le texte lui-même, si on fait abstraction des intérêts mercantiles des majors, il ne devrait pas y avoir de gauche et droite. On devrait essayer de réfléchir et de légiférer dans les meilleures conditions pour qu'il y ait un texte simple, efficace et qui puisse répondre aux questions posées avec l'irruption d'une nouvelle technologie qui bouscule, mais ce qui est tout à fait normal et qui essaie, où il faut trouver des réponses. Et les réponses qu'on n'est pas en mesure d'élaborer ou de construire aujourd'hui, se donner la possibilité d'évaluer, de travailler et de voir comment on va améliorer et on va rendre perfectible ce texte-là. Je pense que c'est ce qu'il faut au moins obtenir au niveau du Sénat.
Mais quand c'est que vous allez reprendre les discussions?
C'est programmé, je crois qu'on devrait redémarrer le 9 mai prochain au Sénat.
C'est le jour de la fête de l'Europe.
Oui, journée de l'Europe. Oui. Mais sur votre interrogation par rapport à la directive européenne, c'est souvent la pratique, d'une part, et on l'a vu, et cela a coûté cher dans le débat au moment du référendum sur le traité constitutionnel, de rendre l'Europe responsable de tout et de dire on ne peut pas faire autrement, c'est l'Europe qui décide. Mais en même temps, bien souvent, et moi l'expérience que j'ai, c'est que non seulement sur un certain nombre de directives, la France tarde, parce que ce n'est pas son intérêt ou l'intérêt de quelques-uns de mettre en œuvre, de transposer ces directives, et que bien souvent, comme ça se passe sur ce texte, quand il y a transposition, ça se fait d'une manière amplifiée, exagérée, même caricaturale, par rapport à ce que propose l'Europe. Mais c'est une pratique régulière. On va avoir au mois de mai à l'Assemblée et au mois de juin au Sénat un texte qui vient sur l'immigration dite choisie, qui anticipe sur une future directive européenne dans le droit français, c'est-à-dire qu'on n'est même pas dans la transposition, on est sur l'anticipation. Et ça arrive notamment dans le domaine de l'immigration, et Sarkozy est orfèvre de ce point de vue-là, où bien souvent des lois votées par ricochet durcissent un peu plus la directive européenne, compte tenu de la place de la France dans l'Europe, et notamment sur un certain nombre de sujets. Donc l'Europe est plutôt l'occasion ou le prétexte à faire passer des politiques régressives, et notamment sécuritaires. Et c'est l'objet de ce texte qui vise à restreindre un nouveau champ de liberté.
Est-ce que vous pensez justement, puisqu'en reprenant l'idée que ce n'était pas un discours, enfin, à part de favoriser des échanges financiers plus importants pour des grandes industries du disque, etc., mais en considérant que quand on redescend un peu dans les sphères locales, comme le département des Bouches-du-Rhône, vous ne pensez pas qu'au niveau des 7 sénateurs, un discours de logique par rapport à cette loi pour être entendu par ces 7 sénateurs, essayer de reconstituer localement l'accord qu'il y avait eu à l'Assemblée nationale avant Noël, parce que ça serait quand même un gros coup de montrer que...
Mais est-ce que vous êtes en capacité, vous et d'autres, de faire le tour, comme vous le faites aujourd'hui avec moi, pour discuter et attirer l'attention et éclairer le débat? Parce que je suis sûr que la plupart des autres sénateurs sont comme moi, et peut-être même un peu moins que moi, encore informés. Et que bien souvent, comme ils font confiance après à leur groupe et aux sénateurs qui sont dans les commissions, c'est pas un désintérêt, mais comme on n'a pas compétence dans tous les domaines et que nos journées ont des limites, c'est vrai que la tendance naturelle, quel que soit le texte de loi, c'est de se reposer sur ceux qui travaillent le texte, parce que la commission et sa commission est chargée sur le fond de travailler et de donner une opinion, voire d'amender le texte.
Mais c'est-à-dire que j'ai regardé les affaires culturelles, j'ai vu qu'il n'y avait que M. Pucherel qui est responsable des affaires culturelles au niveau des sénateurs du département.
Donc il faut voir Pucherel, mais c'est encore plus vrai de voir les autres qui ne sont pas à cette commission pour attirer leur attention, pour montrer que... pour les rassurer là où il faut les rassurer, pour dire « tombez pas dans un débat gauche-droite là où il n'y a pas à tomber, regardez bien de ne pas compliquer avec un texte de loi et de ne pas faire une loi qui finalement débouchera sur une critique encore plus grande du Parlement après l'épisode du CPE, parce que ce que vous allez faire sera impraticable du point de vue de son application. »
C'est-à-dire que là, le problème, c'est que quand je parlais d'un consensus au niveau du département, puisque ça semblait plutôt facile, le problème, c'est que ces sénateurs, dans ces sénateurs, il n'y en a qu'un seul qui est responsable des affaires culturelles. Donc oui, ça veut dire que les autres ne s'associeront pas parce qu'ils ne travaillent pas sur le texte. C'est ça que vous voulez dire?
Oui, parce que les autres ne sont pas préoccupés par ça. Ils sont sur autre chose. Donc ils font confiance, ils délèguent. Donc, vous attirez leur attention et eux verront avec leur groupe ou avec celui qui suit le texte pour leur groupe de dire attendez.
Oui, mais c'est là il y a le deuxième deuxième facteur de ridicule, je trouve, c'est que cette loi a été votée quasiment dans le monde entier avec les DRM. Et moi, ce que je pensais, c'est que les gens se sont tués en disant bon, qu'ils votent leur loi, de toute façon, on copie comme on veut. Du moment qu'on lit un document, on peut le copier, que ce soit du son ou des photos. Donc là, à sortir en France la copie, le détournement des DRM avec 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende, ça équivaut à dire que, là, vous voyez le mini-disque, si je branche un câble à la sortie de mon mini-disque, et que c'est ce que je fais quand je vais transférer cette interview dans mon ordinateur, ce qui est du travail légal, c'est notre travail, si vous me donnez l'accord de le diffuser sur Internet, il n'y a personne qui trouvera à redire. Donc quand je vais mettre un câble à la sortie de ce mini-disque et que je vais rentrer dans l'entrée audio de mon ordinateur, je vais mettre en place un système de contournement des DRM. Donc pour un câble, on est puni de 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Qui c'est qui ne va pas le faire ? Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr, comme on dit, pour le faire. Donc, je veux dire, c'est, là, déjà, c'est un truc qui est ridicule. C'est ridicule.
Oui, ridicule dans la mesure où ce ne sera pas... Enfin, qui c'est qui pourra contrôler, qui c'est qui pourra vérifier tout ça, c'est évident.
Et puis moi, l'expliquer comme je le fais, je l'ai déjà fait sur mon podcast, comme des gens que j'ai interviewés l'ont expliqué en vidéo. Ces gens-là, on est censé avoir fait la publicité pour contourner les DRM, donc on est passif de 3 ans de prison, de 300 000 euros d'amende. Mais je veux dire qu'il n'y a plus de limite. C'est vraiment trop, trop ridicule. Et il me semble que la France a autre chose à faire que de se couvrir de ridicule comme ça.
Et je pense que vous avez ce message à faire passer, ou de vive voix ou par écrit, aux autres sénateurs pour leur dire, et notamment à ceux de l'UMP, après l'épisode du CPE, est-ce que vous pouvez vous ridiculiser une deuxième fois, quitte à perdre tout crédit, je pense notamment en direction des jeunes, qui seront, y compris électeurs, s'ils réfléchissent uniquement en termes des chances électorales et d'essayer de rentabiliser leur action politique à travers le vote des électrices et des électeurs, c'est clair qu'ils peuvent se couper durablement d'une partie de la jeunesse, qui est quand même aujourd'hui la plus branchée, c'est le cas de le dire, sur ces nouvelles technologies, et qui ne comprend pas ce qui se passe dans la tête des parlementaires ou du gouvernement, et qui trouve non seulement aberrant, mais ridicule, d'élaborer des textes dont eux-mêmes, même s'ils ne sont pas législateurs, ils savent très bien qu'ils ne seront pas applicables, en tout cas ils se les appliqueront pas. Donc je pense qu'il y a ce message à faire passer. Est-ce que le gouvernement, la majorité, peut se permettre une nouvelle crise?
Le problème, c'est que maintenant, on était très enthousiastes pour l'étude du projet à l'Assemblée nationale, mais quand vous me dites le message à faire passer, c'est vrai qu'on est parti quasiment de rien en novembre, décembre, c'était un peu des informations entre initiés. En janvier, février, il y a eu vraiment des sites internet qui se sont créés, puisque le gouvernement avait ouvert les téléchargements.com avec encore là beaucoup de ridicule, puisqu'il y avait des articles qui étaient impossibles à commenter. Ce qu'on appelle les articles étaient bouclés au bout de 24 heures, donc personne ne pouvait donner son avis. Il y a des gens qui ont fait un site concurrentiel qui s'appelle lestéléchargements.fr, où il y a eu pendant tout le temps des débats de l'Assemblée, des vidéos directement de l'Assemblée qui étaient sur Internet, des articles de spécialistes sur tout ce que je suis en train de vous expliquer. Si ces sites restent encore trop confidentiels, on peut encore dire que le message passe pas, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont mobilisés pour que ce message passe. On a l'impression maintenant quand même qu'il n'est pas entendu. Mais il existe, il est en ligne depuis des mois.
Oui, mais je crois qu'il faut encore... Donc je pense que l'important, c'est que vous contribuez par votre démarche, qui est une démarche citoyenne importante, à bien donner les tenants et les aboutissants aux parlementaires, en tout cas de notre département, et inviter, si vous avez vous êtes organisé nationalement, si vous avez une représentation nationale, à vous assurer que le contact a déjà eu lieu ou va être pris avec ceux qui travaillent ce texte-là, et à la commission et dans les groupes, parce que c'est un travail indispensable, déjà dans le fonctionnement démocratique. C'est bien de tenir compte de toutes les opinions, mais surtout pour être sûr que les préoccupations que vous avez, vos propositions, vos réflexions seront au moins entendues, prises en compte, ça c'est encore autre chose, mais en tout cas, que tous les parlementaires aient ces éléments et que personne ne puisse se dire, mais attendez, moi si j'avais su, j'aurais pas délégué, je serais intervenu moi-même dans le débat ou j'aurais défendu votre position. Donc il y a besoin de faire ce... Moi je vous invite à vraiment faire ce travail-là.
Ok, mais écoutez, je vous remercie bien pour cette longue interview là, presque plus d'une heure.
Si ça vous intéresse, avec Florence, est-ce qu'on peut demander à côté de faire des photocopies? Il en faudrait deux, une pour Madame et une pour Frédéric Dutoit, de manière que sur ce qui est la réflexion à l'état de notre groupe, vous puissiez par retour de courrier ou tout simplement par échange électronique, de dire bon, oui, d'accord avec ça, par contre là, pas d'accord, ou sur les amendements ou que vous proposez, je partage, ou vous oubliez tel truc, de manière que, bon, vous sachiez au-delà de ce que j'ai pu vous en dire, c'est-à-dire pas grand-chose, comment on va prendre le texte au niveau du Sénat par rapport à ceux qui, eux, ont travaillé d'une manière plus rigoureuse que moi j'ai pu le faire. Donc si vous êtes intéressé, moi je voilà.
Ok, mais je vous écrirai un email donc. Merci Monsieur Brett.
Merci à vous en tout cas de m'avoir sollicité.
Voilà, c'est donc la fin de cette première partie sur la loi d'AFSI avec le sénateur Robert Brett. Je vous conseille de consulter mon site si vous voulez davantage d'informations pour le joindre sur son blog par exemple. Donc, je vous redonne les coordonnées de Melting Talk, www.meltingtalk.com, et je vous conseille d'écouter la deuxième partie sur le Sénat qui est fort intéressante. À bientôt et restez connectés.